brave encore. On a osé regarder dans l'arche, on a appliqué son intelligence, même son intelligence scripturaire, on l'a appliqué à sonder les choses que nul ne connaît, sinon le Père, car nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et le résultat, ça a été une seconde dispersion, et des ravages qui, sauf quelques unités, n'ont pas été réparés. Encore un temps de patience après cette nouvelle épreuve, et puis nous en avons eu une autre dont les plus anciens parmi nous se souviennent, le temps où on se demandait ce qui allait rester des assemblées. Et Dieu, dans sa grâce, maintenant, dans nos régions en tout cas, nous accorde la vraie consolation d'assister à l'opération de celui qui est le restaurateur des vrais, et que d'action de grâce ne lui devons-nous pas pour cela. Cher jeune ami, c'est un bref résumé de l'histoire des frères, elle est bien humiliante. Mais c'est pour nous le sentiment qui s'approfondit dans nos cœurs et auquel vous avez besoin de prendre garde. La nécessité de savoir pourquoi nous nous rassemblons, sur quelle base nous adorons, quelle est la personne que nous voulons glorifier. Alors, les souffrances de ceux qui nous ont ouvert, le chemin, ces souffrances nous deviennent des sujets d'action de grâce. En même temps, elles augmentent notre responsabilité. Que Dieu, dans sa grâce, nous accorde de penser à ces choses avec des cœurs sérieux. Le christianisme est une chose très sérieuse. Pour le rendre, il faut avoir été saisi par le Christ, mais il faut aussi avoir saisi le Christ. Pour le rendre selon la pensée de Dieu, il faut recevoir et appliquer cette exhortation si précieuse de l'apôtre. Saisis la vie éternelle. Or, il est, lui, la vie éternelle, celui qui est venu de la part du Père, gloire du Fils, révélant le Père, la grâce et la vérité vers par Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle.
On ne peut pas lire sans une profonde émotion les exercices, les luttes de ce cher conducteur dont on a parlé, dont nous avons tant reçu, lorsque, rapporte-t-il, s'est imposé à lui avec une force divine. Ces vérités que nous considérons ensemble maintenant et dont Jérémie parle déjà, et ce qui avait si fortement impressionné ce cher serviteur de Dieu, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu sépares ce qui est précieux, ce qui est de Dieu, de ce qui est vil, de ce qui provient de l'activité de l'homme, quelle qu'elle soit, alors tu seras comme ma bouche. Et puis, qu'ils reviennent vers toi, toi ne retourne pas vers eux. Ce n'est pas une séparation pharisaïque qui consiste à dire « Retire-toi de moi, je suis plus saint que toi », mais la séparation pour Dieu, par obéissance à la parole, par ce qui est dû à la gloire et aux exigences morales de la nature de Dieu. Quel déchirement d'autre part, quelle tristesse. Mais ajoute-t-il au pluriel, en menant deuil sur la ruine à laquelle tous nous avons participé, en connaissant tant de brisements de cœur, c'était là les sentiments de Samuel à qui le Seigneur dit « Mais jusqu'à quand mèneras-tu deuil sur Saül ?» Surtout ce développement, ce déroulement de l'activité de l'homme qui a obscurci la pensée de Dieu, qui a tout ruiné. C'était une bonne chose d'être humilié, de mener deuil, de sentir profondément et douloureusement l'offense faite au Seigneur. Mais la ressource remplit ta corne d'huile et va vers Isaïe à Bethléem. Le solide fondement de Dieu demeure, la corne d'huile, l'homme de Bethléem.
Ô Seigneur, qu'un monde rebelle disperse au loin tes bien-aimés, sous ton regard, ta main fidèle, en un faisceau nous a formés. 133, versets 2 et 3.
frappé par le caractère individuel des injonctions qui sont faites ici. Non pas que le côté collectif soit absent, bien loin de là, puisque il s'agit ensuite de poursuivre la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais la chose initiale, essentielle, c'est la séparation personnelle. C'est quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il se retire. Quiconque. Ensuite, si quelqu'un se purifie de ceci, des vases à déshonneur, ensuite, toi, fuis. Puis, dans le chapitre 3, mets-toi. Cela est d'une extrême importance. Cela a été souligné ce matin, lorsqu'il a été parlé de la séparation d'une manière générale, et que l'on a attiré l'attention sur le fait que il ne s'agit pas de suivre tel ou un ensemble, bien que le Seigneur emploie des instruments pour détacher des âmes d'un milieu auquel elle ne saurait plus longtemps appartenir sans désobéir au Seigneur. Mais il faut un travail individuel, personnel. Il se retire de l'iniquité. Et cela demande des exercices qui peuvent être ont été, pour ceux que l'on a évoqués ce matin, bien douloureux. Sans revenir sur ce qui nous a été présenté séparation de l'Église professante, au sein plutôt de l'Église professante, de ce que le Seigneur a éclairé, mais des travaux desquels et des luttes desquels nous sommes il y a un siècle et demi et plus a été poursuivi dans des âmes ici, là, le plus souvent sans liaison préalable, et ensuite le Seigneur leur a permis de se retrouver. J'aimerais attirer encore l'attention sur un point à ce sujet-là. Il nous a été brossé un très large tableau de ce qui a été la formation de ce témoignage que le Seigneur a voulu pour le dernier jour. Or, et la remarque que je désire faire me semble bien d'actualité. Ce travail a été opéré, on peut dire, dans le cadre et comme une expression essentielle de ce qu'on peut appeler le cri de minuit, l'Esprit Saint réveillant au sein de l'Église les âmes qui devaient attendre le Seigneur, dont les affections devaient être portées tout entières vers lui et qui devaient sortir à sa rencontre, à la rencontre du Seigneur. ayant affaire avec lui et le connaissant lui. Or, ce grand mouvement, si nous prenons la chose, les faits tels qu'ils ont eu lieu, s'est produit en plusieurs pays à la fois, en des lieux très différents, souvent éloignés les uns des autres, mais a commencé par un retour aux vérités fondamentales de la doctrine chrétienne, de l'Évangile, au simple Évangile qui avait été perdu de vue, à la prédication et à l'annonce du salut par la foi, les vérités fondamentales, ce qu'est Jésus, mort, ressuscité, glorifié, tout ce qui avait été très largement perdu de vue. Et il y a eu un très grand mouvement à la fois d'évangélisation et de sortie des cadres d'église nationale qui, en général, se sont très fortement opposés à ce moment-là à cette prédication du simple et pur évangile. Cela a entraîné pour beaucoup de chrétiens, ceci aux environs de 1820, 1825, 1830, des persécutions véritables et dans des pays tels que la Suisse romande en particulier, et de la part d'autorités soutenant les églises nationales. De sorte que beaucoup de ces chers chrétiens sont sortis, et en cela ils obéissaient à ce que nous avons ici, ils sont sortis de ces églises institutionnelles, cela en divers pays, et ils ont marché en dehors des cadres précédents. Ils se sont rencontrés plus ou moins. Mais alors s'est posée la question, c'est alors que s'est posée la question de la façon dont ils allaient se retrouver, dont ils allaient se rassembler. Et c'est alors que le Seigneur a montré peu à peu à quelques-uns qu'il ne s'agissait pas seulement de sortir d'églises dont on ne pouvait admettre l'état spirituel et moral dans lequel elles étaient tombées, mais qu'il fallait sortir, se séparer de tout ce qui serait institution humaine, tout ce qui mettrait la pensée, l'organisation du travail de l'Esprit Saint. Et alors, tandis que il y avait des mouvements dissidents, qu'on a appelé de façon absolue la dissidence dans certains pays, qui en réalité se mirent à constituer des unités ecclésiastiques nouvelles, des églises nouvelles, avec une organisation non scripturaire. Les fidèles, éclairés quant à ce qu'est l'Assemblée de Dieu, éclairés quant à l'action du Saint-Esprit, éclairés quant à la valeur unique et exclusive de la personne du Seigneur Jésus pour rassembler les siens, en dehors de toute organisation, de toute institution ecclésiastique, alors ceux-là ont eu non seulement à se retirer de ces grandes églises nationales dont je parlais tout à l'heure, mais ils n'ont pas pu marcher avec ces nouvelles unité dissidente, pourtant fortement évangélique, pourtant gardons les vérités fondamentales et prêchons le véritable évangile. Et c'est là qu'ont eu lieu les plus douloureux exercices. C'est là que chacun a dû véritablement prendre sa vie en sa main et sortir individuellement, et ensuite le Seigneur leur a accordé de se rencontrer. Je me permets d'attirer l'attention sur ce côté des choses et qui me semble extrêmement important dans les jours actuels où le mouvement inverse, nous menace à déjà entraîner plus d'un qui devrait être mieux éclairé et plus assuré dans ce qui est la position des saints en dehors de tout ce qui prend la place de Christ. Sortons vers lui hors du camp. Sortirez de l'iniquité. Quiconque confesse, quiconque prononce le nom du Seigneur, se retirer de l'iniquité, c'est-à-dire d'une marche selon la volonté, selon la pensée des hommes, au lieu d'avoir seulement Christ devant soi. Cela ne signifie nullement sortir de l'Église professante, au sens véritable, au sens large, par conséquent, du terme. Cela ne signifie pas sortir de la grande maison, car nous avons ensuite, n'est-ce pas, la comparaison de la grande maison, des vases de bois, de fer, de bois de terre, ou d'or et d'argent, des vases à honneur et les autres à déshonneur. Alors si quelqu'un se purifie de ceci, mais c'est à l'intérieur de la grande maison. La grande maison, c'est-à-dire la chrétienté. Nous ne pouvons pas sortir de la chrétienté. Nous ne pouvons pas sortir de ce qui porte à tort ou à raison, ou plus exactement, qui porte en vérité ou seulement extérieurement le nom d'Église de Christ. Et tout ce que Christ reconnaît encore avoir son nom, porter son nom. Nous ne pouvons pas sortir de la grande maison. Mais à l'intérieur de la grande maison, chacun doit se purifier des vases à des honneurs. La grande maison, on ne sait, il semble que l'apôtre n'a pas de autre nom pour désigner l'ensemble chrétien ou christianisé qui porte le nom chrétien. Une chose qui me frappe beaucoup dans cette épître à Timothée, c'est que la pensée de l'Assemblée y est continuelle, n'est-ce pas? Continuelle. Et nous avons raison d'y revenir sans cesse, mais le nom d'Assemblée ne se trouve pas. Le nom d'Assemblée n'est pas prononcé dans toute l'épître, dans toute cette seconde épître. C'est la grande maison. Ce qui était en ordre peu d'années auparavant. La première épître à Timothée date de 2 ou 3 ans ou plus avant celle-ci, a rapidement évolué. Et la maison dont l'ordre pouvait être décrit est maintenant devenue la grande maison. Et alors comment se comporter au sein de cette grande maison? Se purifier des vases à déshonneur. Et l'injonction est aussi actuelle, sinon davantage, peut-être plus difficile à réaliser, demandant plus d'énergie spirituelle, demandant plus exactement une obéissance plus entière et plus simple à la volonté du Seigneur qu'elle l'était sous la plume de l'apôtre à Timothée, et il y a tant de siècles.
Un des traits majeurs de la vie chrétienne, c'est la sainteté. Sainteté, c'est la séparation du mal. La justice, c'est la fidélité dans une relation. La sainteté. Et il ne s'agit pas simplement de choses d'un mal grossier. Les manifestations du moi, dans l'assemblée, c'est une iniquité. Nous reconnaissons qu'il y a toujours un mélange dans nos services. Nous ne prétendons pas à la perfection. Il s'agit là, tantôt, quant à l'état de nos cœurs, bien sûr, mais nous ne devons pas en prendre notre parti. Ne pas nous autoriser du fait que nous ne sommes jamais parfaits pratiquement pour nous relâcher. L'orgueil dans l'Assemblée, encore une fois, le moi qui se met à régner dans l'Assemblée, c'est une iniquité plus grave qu'une aide de l'inconduite. Parce qu'elle est plus difficile à déceler et plus difficile à éliminer. L'inconduite peut faire l'unanimité, quelqu'un qui se conduit mal, il peut y avoir unanimité pour le rejeter. Il y a bien d'autres manquements intolérables dans la maison, dans la présence du Seigneur, qui ne trouveraient pas pour leur condamnation la même unanimité. Et cela est une chose à quoi nous devons penser. Si vraiment le Seigneur était celui qui est devant nous, dans nos affections, qui avait un peu plus de place dans nos affections, cette unanimité se ferait sans beaucoup de peine. Et il se peut très bien qu'une assemblée devienne quelque chose que le Seigneur rejette, parce que, après de nombreux avertissements ou de toutes sortes, elle a été sourde. Le Seigneur peut la rejeter encore une fois. Que le Seigneur nous donne de penser beaucoup à sa gloire et à ses droits dans le rassemblement, à lui. Ses droits à lui. Nous n'en avons aucun, exactement. Pas un. Nous sommes tous là pour obéir, simplement pour cela. C'est déjà un honneur d'avoir obéir à un tel maître. Dans la suite, il s'agit des vases. C'est plutôt en avant une question de service. Vase parle toujours d'une aptitude de ce qui sert. Mais tout se tient. Il est évident qu'on a l'histoire de nos devanciers ou peut-être même de nos jours dans certains cas a pu poser à des fidèles la question, suivante devant une situation sans que l'on tolérait, que l'on n'aurait pas dû tolérer, dire « Seigneur, où vas-tu ? Où vas-tu pour que je te suive, que je ne te perde pas ?» Une assemblée qui a perdu Christ pratiquement est évidemment une assemblée rejetée.